Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Sarah Géjaco et Clémence Alézar, mais aussi Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Philippe Baudouin et mise en onde ce matin par Jean Guilhermège. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Aujourd'hui, c'est Alain Sal qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste au Monde et ancien correspondant à Athènes. Vous l'avez été de 2010 à 2013 et ça va bien nous aider ce matin puisqu'on va parler justement de la Grèce. Lundi, les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis à Bruxelles pour se mettre d'accord sur les prochaines réformes que la Grèce devra mettre en œuvre pour ce nouveau plan d'aide. Si le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirmait avant la réunion qu'il faudrait un miracle pour obtenir un accord, eh bien le miracle a eu lieu puisque les responsables de l'Eurogroupe l'ont trouvé, ou plus précisément c'est Tsipras qui a finalement accepté ce qu'il jugeait jusqu'ici inacceptable, c'est-à-dire des mesures législatives préventives, comme une nouvelle réduction des retraites, de nouvelles hausses d'impôts. Mais ces nouveaux efforts sont-ils tenables et suffisants pour sauver la Grèce? On va évoquer ces questions-là dans quelques instants avec Stathis Kouvelakis qui arrive en studio, mais également Yves Bertoncini qui est déjà avec nous. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Avant d'évoquer cette question de la Grèce peut-elle sortir de la crise sans sortir de l'Union européenne? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Mais d'abord, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'Association des prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Ukraine, c'est Adrien Jaulme. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Adrien Jaulme. Vous êtes journaliste au service étranger du Figaro. Vous êtes également auteur de la préface de la traduction du rapport Le Monde en 2035, vu par la CIA, qui est paru aux éditions Équateur. On en parlera peut-être en fin d'émission. Mais d'abord, la question de l'Ukraine, parce qu'il y a quelques semaines, on sait, les violences ont repris en Ukraine entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne. Nous rappelons évidemment que ce conflit n'est pas tout à fait gelé dans cette partie orientale du pays. On va essayer de comprendre justement comment est-ce que s'est fait ce dégel. Vous êtes rendu notamment dans la région du Donbass, en particulier dans les alentours d'une mine de charbon qui sert de poste avancé à l'armée ukrainienne, la mine de Butovka. Fin janvier, cette zone de front a été le théâtre d'une opération menée par des combattants séparatistes. On va commencer par ça. Racontez-nous cette opération, qui peut apparaître comme relativement modeste, en tout cas en apparence, mais qui a provoqué un embrasement assez général, Adrien Jaulme.
Je crois que la seule chose qui est gelée dans ce conflit du Donbass, ce sont les températures, parce que pour le reste, on a une petite guerre classique qui s'est mise en place. Alors, les positions sont plus ou moins figées depuis les accords de Minsk 2. On se rappelle que ça avait été signé en janvier-février 2015. Mais en fait, sur le terrain, les deux camps ont accumulé de l'armement, du savoir-faire, de l'artillerie lourde, et régulièrement, il y a des incidents le long de cette ligne de front et qui dégénère parfois, comme ça a été le cas le 29 janvier dernier, dans le secteur d'Avdiivka, qui est une ville de taille moyenne qui se trouve juste au nord de Donetsk, la grande capitale des séparatistes. Et donc on voit, on est quasiment dans une sorte de mini guerre classique avec de l'artillerie lourde, des roquettes grades. Les séparatistes ont lancé a priori une attaque sur une position avancée de l'armée ukrainienne qui faisait saillant dans leur ligne. Cette attaque a été repoussée. Les Ukrainiens se sont emparés à leur tour de la avant-poste des séparatistes pro-russes et pendant plusieurs jours les échanges d'artillerie se sont déchaînés dans cette petite région et bien sûr comme d'habitude.
Qui est une région importante, hein, cette mine en particulier, il y a un enjeu stratégique important.
Ce sont en fait le Donbass, il faut se rappeler que c'était le bassin industriel et minier de l'Union soviétique, donc vous avez un système extrêmement vaste, extrêmement complexe avec des mines de charbon qui extraient du charbon qui est transformé ensuite dans des usines de fabrique de coke qui sont ensuite transférées dans des immenses usines sidérurgiques. Tout ça fonctionne avec des voies ferrées, des voies de chemin de fer qui relient tous ces centres industriels les uns aux autres. Et au milieu, on a tracé une ligne de front quasiment infranchissable, ou du moins difficilement franchissable, qui crée des difficultés énormes à la poursuite de l'activité économique dans la région, qui est pourtant vitale pour la survie de ses habitants.
Alors, vous allez dans ce poste de commandement désormais défendu par des soldats ukrainiens. Les conditions sont difficiles, vous disiez. Les températures vont jusqu'à moins 20 degrés. Vous y croisez notamment un vieux combattant de 46 ans, Yaroslav. Il a servi à l'époque de l'URSS et il vous dit que jamais il aurait pensé se retrouver finalement à combattre les Russes qui étaient ses anciens camarades d'or.
Ce qu'on appelle les Russes, alors ce que les Ukrainiens appellent de plus en plus les Russes, ce sont en fait les troupes séparatistes pro-russes, mais c'est avant tout c'est une guerre civile, cette guerre ukrainienne. Vous aviez des gens qui encore en 2014 étaient tous ukrainiens, tout le monde, le russe était la deuxième langue parlée en Ukraine, y compris par des gens qui sont maintenant du côté ukrainien. Enfin, tout ça, comme dans toutes les... Il y a toujours cette tragédie terrible des guerres civiles qui fait que, eh bien, on entend toujours la même chose en disant, on n'aurait jamais cru que ça allait se produire. Et là, c'est toujours pareil. Eh bien oui, on croyait pas que ça se produirait. disparaît et on se retrouve dans cette situation-là.
Alors, vous évoquez le cas de deux groupes, de deux corps francs de l'armée séparatiste, l'un qui s'appelle Sparta et l'autre qui s'appelle Somalie. Racontez-nous par qui ils ont été fondés, quel rôle ils ont joué dans le conflit. Et puis, il faudra évoquer justement le fait que leurs fondateurs ont été tués et dans des conditions, dites-vous, un peu mystérieuses. J'aimerais peut-être qu'on aborde la question justement des hypothèses qui peuvent expliquer leur assassinat. Je ne sais pas s'il faut dire assassinat, mais Adrien Jaune.
En tout cas, ce ne sont pas des accidents ménagers. Mais les deux corps francs auxquels vous faites référence, Sparta et Somalie, font partie de cette nébuleuse des combattants séparatistes qui sont une armée qui s'est montée à partir de volontaires au cours du printemps et de l'été 2014, quand le soulèvement soutenu et animé en sous-main sans aucune espèce de doute possible par les services secrets russes, puisque certains membres ont été s'affichés même comme tels. Mais vous avez toute cette nébuleuse, sont des sortes de corps francs. Alors les pro-russes les considèrent comme des héros quasi légendaires, les Ukrainiens comme des criminels de guerre. Il faut admettre que leur respect des conventions de Genève est tout relatif, et certains sont commandés par des personnages assez hauts en couleur, comme on voit parfois surgir dans ces périodes troublées. Donc celui auquel vous faites référence, Sparta, avait été fondé par un personnage qui était surnommé Motorola, qui était le nom qu'on lui avait donné après qu'il ait travaillé pendant quelques temps dans une usine de matériel de télécommunication. Et Motorola a participé à la grande bataille de la prise de l'aéroport de Donetsk, qui a duré pendant plusieurs semaines.
C'était l'hiver 2014-2015.
Plusieurs mois même, et qui a été une bataille terrible où on se battait entre les étages de cet aéroport ultramoderne de Donetsk. Et donc c'était un des héros des séparatistes pro-russes. Et il a été tué en octobre 2016 dans un attentat, puisqu'il y a une bombe qui était placée dans son ascenseur, et ça dans l'immeuble dans lequel il vivait. Donc toutes les hypothèses ont été avancées. Est-ce que c'était les services secrets ukrainiens qui ont éliminé un de leurs adversaires? Est-ce que ce sont les séparatistes entre eux, puisque il n'y a quasiment aucune autorité qui régit cette république autoproclamée de Donetsk? Il y a les trafics du marché noir et autres activités criminelles qui se déroulent en marge de la guerre, en parallèle de la guerre? Ou alors, est-ce que ce sont, autre hypothèse qui est parfois avancée, encore une fois, j'ai aucun élément pour répondre, ce sont les services secrets russes qui se débarrassent les uns après les autres d'éléments qui deviennent un petit peu gênants? En gros, on a besoin de coupe-jarret et de condottières, de chefs de guerre quand il s'agit de faire la guerre. Et puis ensuite, quand on essaye de stabiliser un peu la situation et quand ceux-ci commencent à désobéir ou se montrer un petit peu trop indépendants, eh bien, il vaut mieux les éliminer.
Alors justement, si on suit cette hypothèse, c'est-à-dire l'idée que ces personnages ont été éliminés par les Russes, qui les ont peut-être trouvés un petit peu trop indisciplinés, allons peut-être à la question de savoir de qui a décidé l'opération dont on parlait dans cette mine de Butovska et qui a, d'une certaine manière, dégelé, même si vous disiez que le conflit en réalité n'a jamais été complètement gelé. Mais est-ce que cette opération, elle a été, selon vous, elle a pu être ordonnée par Moscou? Et de façon plus générale, la question qui se pose, c'est celle du pouvoir d'influence, voire de contrôle réel de Moscou sur ces séparatistes et sur ces groupes.
La réponse risque de vous décevoir, on n'en sait rien et personne n'a de réponse claire. Ce qui semble pourtant se dessiner depuis le début de cette affaire du soulèvement du Donbass, c'est que la Russie est bien sûr en sous-main, soutient, y compris parfois militairement. On se rappelle quand l'armée ukrainienne avait lancé une contre-offensive, notamment à l'été 2014, pour tenter de reconquérir ces provinces séparatistes. Et bien là, l'armée russe et des soldats russes, des troupes régulières étaient rentrées sur le territoire ukrainien et avaient infligé des cuisantes défaites à l'armée ukrainienne qui s'était repliée après avoir subi d'énormes pertes. Mais le reste du temps, ce sont ces groupes séparatistes qui tiennent la ligne de front. Et avec tout ce que ça implique, c'est une armée irrégulière, avec ses chefs de guerre, ses seigneurs de la guerre, qui sont plus ou moins des personnages assez fantasques, mais et qui ne sont pas des membres d'une armée régulière. Donc on a l'impression que la Russie maintient un petit peu à feu doux, en ébullition, ce conflit, qui est une plaie ouverte sur la frontière est de l'Ukraine, qui empoisonne, qui fait beaucoup de morts, qui occupe l'essentiel de l'énergie du gouvernement ukrainien, qui pendant ce temps-là ne fait pas autre chose, et puis qui empoisonne la vie politique qui tente de se réorganiser à Kiev. Après, est-ce qu'ils ont un contrôle immédiat? Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique directe qui part du Kremlin et qui arrive au poste de commandement des séparatistes pro-russes? Ça, c'est quand même beaucoup plus problématique. Et encore une fois, on est, comme dans toutes ces situations un peu grises, un peu ambiguës, les grandes, des éléments purement de purement locaux, comme une bande de soldats irréguliers qui s'ennuient, qui trouvent qu'il fait trop froid ou qui lancent un coup de main, peuvent tout à coup avoir des conséquences géopolitiques complètement disproportionnées.
Alors, je reviens sur les accords de Minsk 2, donc signés en février 2015 avec les dirigeants de l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. Vous le disiez, effectivement, en réalité, ces accords n'ont jamais été complètement respectés. Il se trouve que samedi soir, il y a un nouveau cessez-le-feu qui avait été annoncé. Et puis, dès lundi, il a été violé, même s'il semble que quand même les violences aient un tout petit peu diminué par rapport à la semaine précédente. Mais en tout cas, il n'a pas été respecté. Comment est-ce que vous voyez la suite du conflit en général, avec précisément des annonces de cessez-le-feu qui ne sont jamais véritablement respectées? Mais est-ce qu'un accord global de paix durable vous semble possible? Disons-le comme ça.
En tout cas, ce qui semble clair, c'est que l'accord de Minsk, qui en gros fige les positions respectives des séparatistes et de l'armée ukrainienne, est aussi un peu la conséquence du rapport de force sur le terrain. L'armée ukrainienne n'a pas les moyens militaires de reconquérir les régions séparatistes du Donbass et de Luhansk, en grande partie parce que l'armée russe chaque fois intervient massivement pour les repousser. Les séparatistes, en revanche, Moscou n'a jamais donné aux séparatistes les moyens militaires pour élargir leur périmètre, voire même s'emparer de Mariupol, le grand port et le grand centre sidérurgique sur la mer d'Azov. Les séparatistes, en fait, sont limités dans leur capacité par Moscou qui les maintient à un niveau raisonnable de gêner terriblement le pouvoir ukrainien, mais sans pouvoir mener une offensive militaire de grand style. Donc on en est là, on a une sorte d'équilibre, de statu quo sur le terrain. Et politiquement, il apparaît clair que ni les autorités ukrainiennes qui en refusent catégoriquement d'envisager la perte d'une partie de l'importance de leur territoire, ni les séparatistes qui politiquement sont dans un discours très maximaliste, n'ont la capacité d'eux-mêmes de signer la paix. C'est un accord qui ne peut être signé qu'à une échelle globale et auquel Moscou sera partie prenante.
Alors justement, parce qu'il y a le rapport de force sur le terrain et puis il y a le rapport de force diplomatique. Cette semaine, le président ukrainien déchu Viktor Yanukovych a appelé Donald Trump à arrêter la guerre. Qu'est-ce que le nouveau président américain est, selon vous, disposé à faire et à ne pas faire dans ce dossier ukrainien?
Comme beaucoup d'éléments de la politique de Donald Trump, là aussi, la plus grande incertitude règne. Les déclarations du nouveau président américain sont nombreuses. Il n'apparaît pas encore très clair comment il entend les traduire dans les faits. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ces déclarations et cette élection de Donald Trump a déjà des conséquences, puisque les acteurs sur le terrain commencent à agir en fonction de cette nouvelle donne,
c'est-à-dire
politique américaine. Eh ben, est-ce que par hasard, c'est une hypothèse encore une fois qui circule, on est dans un monde de rumeurs et d'hypothèses lancées par les uns et les autres, mais est-ce que par hasard les Russes ou les pro-russes n'auraient pas lancé une attaque sur le front pour essayer de tester les réactions américaines, voir quelles seraient, est-ce qu'il y aurait des condamnations violentes? Est-ce qu'il y aurait un soutien ferme et massif à l'Ukraine, ou au contraire, est-ce que les Américains allaient se prendre leur distance avec leur allié ukrainien? Et c'est pareil du point de vue ukrainien. Les Ukrainiens ne sont pas certains d'avoir un soutien américain ferme et massif en cas où la crise s'aggraverait encore.
Revenons sur les territoires ukrainiens, parce que pendant ce temps, les habitants de la région continuent de vivre, bien sûr, sous les obus et les roquettes, mais ils restent aussi, et s'ils restent, c'est parce qu'ils continuent de travailler, notamment dans cette grande coquerie que vous évoquiez, qui fournit beaucoup d'emplois, je crois près de 4000 emplois. Comment se fait-il que cette usine continue de fournir du charbon? Comment expliquer que finalement cette industrie, parce que vous le disiez, c'est une région où il y a un potentiel industriel important, comment se fait-il qu'elle ne soit pas à l'arrêt? On est quand même dans un état de guerre, et pourtant ça se poursuit. C'est une des questions que vous évoquez dans votre papier.
Cette coquerie dont vous parlez, qui est la grande usine qui est effectivement d'Avdiivka, qui emploie la plus grande usine de coque d'Europe. Mais c'est un spectacle absolument dantesque. C'est une usine immense où dans laquelle le jour et nuit, elle était construite en 1963. C'est une usine de coque, donc on chauffe du charbon à 1200 degrés qui se transforme au bout de 24 heures de cuisson en une sorte de combustible encore plus riche qu'on utilise ensuite dans les usines sidérurgiques. On jour et nuit, puisque les fours ne peuvent jamais s'arrêter sous peine d'être, et on doit les reconstruire avec des investissements massifs. Donc cette usine ne peut pas s'arrêter. Et sans cette usine, vous avez toutes les grandes aciéries de Mariupol, notamment la grande usine Ilitcha, qui elle emploie, dans mon souvenir, 30 000 personnes. C'est une véritable ville. N'a plus de combustible, ne peut plus fabriquer d'acier. Donc l'intérêt de la population, l'intérêt du gouvernement ukrainien et même aussi des séparatistes, est que ce grand bassin industriel fonctionne.
C'est l'intérêt des deux camps, vous voulez dire?
D'une certaine façon, oui. Enfin, les séparatistes qui sont censés, dont le discours consiste à défendre les intérêts et les droits de cette population très marquée par l'esprit ouvrier, la figure du mineur hérité de l'Union soviétique, ne peut pas se permettre de voir toutes les usines fermées. Et puis, vous avez, pour ajouter encore un niveau de complexité, s'il n'y en avait pas assez jusqu'à présent, vous avez aussi des personnages assez des positions encore plus ambiguës, comme cet oligarque qui est le propriétaire de la plupart des usines, la plupart des mines de charbon.
Moussa Magomedov.
Non, ça non, c'est Moussa Magomedov est l'extraordinaire et très énergique directeur
de cette
usine de coke, qui lui dort dans son bureau, les obus abattent autour de son usine, il a ses téléphones portables qui sonnent en permanence et il est en train de faire arriver des trains de coke, des trains de charbon pour ses fours, d'exporter la coke, de maintenir les lignes électriques à haute tension qui alimentent les fours. Enfin ça c'est un de ces personnages qui d'une énergie folle qui envers et contre tout parvient à maintenir son usine en marche. Non, je pensais à l'oligarque Rinat Akhmetov, qui est l'homme le plus riche d'Ukraine, l'une des plus grosses fortunes d'Europe, et qui possède la plupart des mines de charbon, des usines sidérurgiques de la région du Donbass. Et donc, il en possède des deux côtés, côté ukrainien et côté séparatiste. Il paye ses impôts au gouvernement ukrainien, et vraisemblablement, je ne voudrais pas avoir de problème avec les avocats de ce monsieur, mais vraisemblablement, il doit verser aussi une partie des contributions aux séparatistes. Mais il parvient à maintenir cette espèce d'empire industriel coupé en deux par une ligne de front en état de fonctionner de façon limitée, mais de façon réelle.
Alors, je le disais tout à l'heure au début de notre échange que vous avez donc préfacé la traduction du rapport du Monde en 2035 vu par la CIA, qui est paru fin janvier aux éditions Équateur. C'est un rapport qui sort tous les 4 ans à peu près, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On est dans une situation où, évidemment, l'économie, le moteur de l'économie mondiale, à savoir la Chine, est au ralenti. Les croissances sont à peu partout de plus en plus atone. Par ailleurs, on a une pression démographique qui va s'accentuer et on voit dans le même temps une montée des populismes un peu partout dans le monde. On a la révolution patriotique, pour reprendre la rhétorique d'extrême droite, qui a été lancée et pas seulement du côté de l'Europe, les États-Unis évidemment aussi. C'est le repli qui est en train de gagner le monde. On est dans une situation où les défis sont de plus en plus grands et où on se rend compte que finalement la coopération entre les pays semble de plus en plus difficile. Vous écrivez, je vous cite, « Même si les grandes tendances de l'histoire sont souvent assez bien connues, à chaque époque, l'aveuglement collectif semble devoir prendre le dessus sur la raison. Comme si les dieux de la guerre et de la destruction des anciens Grecs continuaient de gouverner les sociétés les plus civilisées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un moment d'aveuglement et que finalement les conditions sont aujourd'hui réunies pour que le monde bascule dans un ensauvagement généralisé. Est-ce que le retour de la barbarie, pour reprendre le titre de ce célèbre ouvrage de la philosophe Thérèse Delpech, est-ce qu'il vous semble là ?
C'est toujours difficile de faire des prédictions et de lire les boules de cristal, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nos arrière-grands-parents en 1913 étaient des gens tout à fait cultivés, civilisés, intelligents et qui avaient une assez bonne connaissance du monde et de son fonctionnement, sont allés droit dans l'abîme sans que personne ne puisse rien arrêter. Donc rétrospectivement, vous avez des tas d'historiens très sérieux qui vous expliquent que selon A plus B plus C, tout devait se passer comme si c'était écrit dans les astres, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a toujours une issue, la catastrophe n'est jamais certaine. Mais en tout cas, oui, je pense qu'objectivement, on entre dans une période où l'histoire s'accélère, où les conséquences d'événements lointains ont des répercussions très rapides sur d'autres régions. Et surtout, on s'aperçoit encore une fois quelque chose qui est on en parlait tout à l'heure avec ce soldat ukrainien qui disait « j'aurais jamais cru que j'allais un jour me battre contre des Russes ». Notre expérience quotidienne observée chaque jour n'a aucune validité pour prédire l'avenir. Enfin, c'est la fameuse anecdote de la dinde qui, au cours de toute l'année, selon son observation quotidienne et objective, considère que le fermier est quelqu'un de sympathique qui vient la nourrir jusqu'au jour de Noël où on lui coupe le cou. Donc, ce que souligne ce rapport, c'est qu'en fait, il y a des grandes tendances qui se dessinent, qui sont là, qui s'accélèrent, et il vaut mieux les regarder en face pour éviter d'en être l'objet.
Merci beaucoup, Adrien Jaulm, d'être passé dans nos studios, de nous avoir parlé de l'Ukraine, mais aussi donc de ce monde en 2035 vu par la CIA dont vous avez fait la préface et qui est paru aux éditions Équateur il y a quelques jours, quelques semaines, fin janvier. Merci infiniment d'être passé dans nos studios.
Merci.
va tourner notre page ukrainienne et se diriger doucement du côté de la Grèce, alors que les ministres des Finances étaient réunis à Bruxelles en début de semaine pour s'accorder sur les prochaines réformes grecques. La Grèce peut-elle sortir de la crise sans sortir de l'Union européenne? C'est notre question ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, lundi dernier, donc, les ministres des Finances étaient réunis à Bruxelles pour essayer de trouver une issue sur les nouvelles réformes à engager pour obtenir un nouveau plan d'aide pour la Grèce. Et pendant ce temps, la crise sociale, elle, se poursuit en Grèce.
On dirait qu'ils veulent brader la Grèce, diminuer le coût du travail à un niveau dégradant afin de pouvoir investir dans certaines entreprises, dans le tourisme ou ailleurs. Ils veulent faire des bénéfices et la qualité de vie des travailleurs ne les intéresse pas du tout. Mais comme vous pouvez le comprendre, ils ne peuvent plus tirer sur la corde. Ils ont épuisé les travailleurs. C'est la sixième année que les travailleurs font face à toutes ces difficultés. Il semble qu'avec les négociations, ils disent que ça tiendra au moins jusqu'en 2021. Tout ce soi-disant gras qu'il y avait, il n'y en a plus. Nous touchons le fond du baril.
Ce n'est pas juste, l'argent qu'ils nous donnent en échange de nouvelles mesures, ce sont les banques françaises et allemandes qui le récupèrent. Il ne reste rien pour redynamiser l'économie et avoir la croissance dont ils parlent. Il faut qu'ils changent de recette. Tous l'ont reconnu, elle ne fonctionne pas, mais personne ne la change.
Voilà, extrait d'un reportage de RFI. À Athènes, les rassemblements se sont multipliés pour dénoncer la réforme des retraites et pour s'élever de façon générale contre les nouveaux efforts demandés aux Grecs, jugés insupportables pour certains et indispensables pour d'autres. On va revenir donc sur les enjeux autour des nouvelles négociations entre la Grèce et la Troïka, comme on l'appelle. Il y a un accord qui semble avoir été trouvé. Il reste à savoir s'il sera vraiment suffisant et si les Grecs seront disposés à concéder de nouveaux efforts. Est-ce que la crise grecque finira un jour? Comment? À quel prix? Pour le peuple grec et pour l'ensemble de l'Union européenne. Statis Kouvelakis est l'un de nos invités. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en philosophie politique au King's College de Londres. Et puis Yves Bertoncini est également avec nous. Rebonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Jacques Delors. Notre Europe, Alain Sall, bien sûr, notre partenaire du monde, est avec nous pour nous accompagner. Vous avez en plus été ancien correspondant à Athènes, donc ça nous sera bien utile ce matin. Je commence avec vous, Alain Sall, parce que, évidemment, la Grèce avait un petit peu disparu des écrans radars. Il y avait un certain nombre d'événements majeurs. On a parlé de l'Ukraine, il y a eu évidemment le Brexit, l'élection de Donald Trump, les forces populistes qui continuent de monter un peu partout. Ces nouvelles négociations, elles nous rappellent qu'en réalité, la crise grecque, elle est toujours bel et bien là. La crise grecque, la dette grecque, c'est vraiment la crise sans fin.
Oui, c'est une forme de crise sans fin. Et puis, avant qu'on aille peut-être dans le détail de tous ces eurogroupes qui se succèdent avec à chaque fois une mise en scène de crainte qu'un accord n'arrive pas, qu'on aille vers un nouveau Grexit pour finalement accoucher d'un accord dont on sait très bien qu'il résoudra rien. Il y a peut-être besoin de prendre un peu de hauteur, parce que la meilleure description de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, je pense qu'on peut la trouver dans un poème écrit en 1928 par le grand poète Constantin Cavafis. Ça s'appelle « Dans une grande colonie grecque, 200 ans avant Jésus-Christ ». C'est un poème qui a eu un certain succès, c'est vrai, depuis la crise, mais vous allez voir pourquoi. « Que les choses n'aillent pas au mieux dans la colonie, il ne subsiste pas le moindre doute là-dessus. Et bien que nous continuions à progresser passablement, il est peut-être temps, comme bien des gens le pensent, de faire venir un contrôleur pour restructurer l'État. Pourtant, l'inconvénient et la difficulté avec ces contrôleurs, c'est qu'ils font des histoires à n'en plus finir avec n'importe quoi. » L'idéal serait que personne n'ait jamais besoin d'eux. Ils s'enquièrent du plus infime détail et passent tout au peigne fin et aussitôt se mettent en tête des réformes radicales en réclamant qu'elles soient appliquées sans délai. En plus, ils ont tendance à imposer des sacrifices. Renoncez à ces territoires, votre pouvoir y est chancelant. C'est ce type même d'exploitation qui ruine les colonies. Renoncez ici à ce revenu et à cet autre, ainsi qu'à ce troisième. Ils sont certes substantiels, mais qu'y faire? Ils vous créent des responsabilités néfastes. Et plus ils avancent dans leur enquête, plus ils trouvent de nouvelles dépenses à éliminer, comme si cela pouvait se faire aussi facilement. Et quand, la chance aidant, ils auront achevé leur travail et qu'une fois tout passé en revue et tout disséqué avec soin, ils s'en seront allés, empochant leur juste salaire, nous verrons ce qui va rester après une telle rigueur chirurgicale.
Déjà, voilà. Déjà la rigueur, déjà. Déjà
la rigueur. Ça a été écrit en 1928, ouais. Je rappelle.
Statis Kouvelakis, revenons peut-être à notre époque contemporaine et à l'accord qui a finalement été trouvé en début de semaine. Le gouvernement grec a parlé d'un accord obtenu sans un euro de plus d'austérité. Alors, peut-être qu'on pourrait préciser exactement ce qu'il y a derrière cet accord et est-ce que vraiment la Grèce, selon vous, se dirige vers moins d'austérité, comme l'annonce le gouvernement grec?
Bon, écoutez, on a beaucoup parlé ces derniers temps des faits alternatifs et autres trucs de communication du gouvernement, de l'administration Trump, mais je crois que les faits alternatifs de Trump, c'est de la petite bière comparé à ces sortes de réalités virtuelles du discours gouvernemental grec, essentiellement, qui vise à faire passer une nouvelle potion amère à sa population en disant que c'est, je cite des responsables du gouvernement grec, l'entrée dans la période post-austérité. Bon, tout ceci serait vraiment grotesque si ce n'était tragique, parce que, et là le poème de Cavafis, c'est tout à fait le bienvenu. Ce qui se passe en Grèce, c'est deux choses en fait. La première, c'est que le pays est de toute évidence mis sous tutelle de plus en plus étroite depuis le début de la crise. Et cette tutelle n'aboutit qu'à aggraver la situation. Il y a un chiffre qui la résume à lui tout seul, je pense, c'est que quand la Grèce a fait appel à ses créanciers parce qu'elle ne pouvait plus financer sa dette sur les marchés internationaux en 2010-2011, sa dette était 120% du PIB, après une purge sans précédent pour un pays européen depuis l'entre-deux-guerres, après avoir perdu un quart de sa richesse après un désastre social sans précédent, cette dette s'élève à plus de 180% du PIB. Et tout le monde sait qu'elle est complètement ingérable. Donc le pays ne cesse de s'enfoncer dans la récession. Les effets récessifs des mesures d'austérité qui sont prises conduisent inévitablement à rendre la dette de moins en moins viable. Le FMI constate l'échec de sa propre stratégie. Les divergences d'ailleurs entre le FMI et les institutions européennes sont l'un des éléments principaux justement de cette crise. En réalité, le gouvernement grec n'est qu'un comparse, c'est un chargé de communication pour faire passer auprès de la population des plans qui sont en réalité concoctés par le FMI. Les vraies négociations, c'est entre le FMI et les institutions européennes. Les Grecs n'ont pas voix au chapitre là-dessus depuis qu'Alexis Tsipras a capitulé en l'été 2015 devant les exigences des créanciers. Donc tout ceci est un déjà-vu de l'histoire grecque longue, parce que ce pays a toujours, à des moments critiques de son histoire, été dans l'ombre des puissances occidentales et européennes. Cavafis, qui vivait dans les confins de l'Empire britannique, en réalité, le voyait de façon tout à fait aiguë, comme on l'a vu. Et ce mélange est un mélange explosif. Vous savez, quand on associe le déni de démocratie et une paupérisation brutale de la population, là, il y a quelque chose qui fait que un ordre, quel qu'il soit, fût-il injuste, ne peut pas se bâtir sur des bases pareilles.
Yves Bertoncini, je voudrais vous entendre parce qu'effectivement, ce que dit Statis Kouvelakis, c'est assez juste, c'est-à-dire que les réelles négociations, elles ne se sont peut-être pas là où on pense. Parce que il faut rappeler que avant cette réunion entre les représentants de la Grèce et la Troïka, donc le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, il y a eu de très longues négociations, et notamment entre le FMI et les Européens, et notamment en particulier les Allemands, parce qu'ils n'étaient pas d'accord en réalité sur ce qu'il convenait de demander concrètement aux Grecs. Il y a encore des divisions extrêmement fortes, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'Europe, sur ce qu'on peut demander à la Grèce, à tel point d'ailleurs que personne n'imaginait en réalité qu'il y aurait un accord en début de semaine. Alors il y en a eu un, on verra quels sont les effets, etc. Mais c'est assez significatif que, en réalité, les vraies négociations, il a raison, ils sont surtout entre les FMI et les institutions européennes et à l'intérieur de l'Union européenne elle-même. La Grèce est écartée de tout ça.
Si vous le permettez, je vais revenir au poète, Constantin Cavafis. L'idéal, nous rappelait Alain Salles, ce serait de ne jamais avoir à faire appel à des contrôleurs. Bien naturellement. Si la Grèce est dans cette situation, c'est parce que pendant une dizaine d'années, peut-être plus, elle a été mal gérée par les anciennes élites. Le PASOK en a payé le prix, d'ailleurs, démocratique. Et qu'elle a dû, puisque les marchés financiers ne voulaient plus lui prêter d'argent à des taux raisonnables, faire appel à des créanciers que sont l'Europe et le FMI. Je souligne que ce n'est pas la seule à avoir fait ça. L'Irlande a dû le faire. Le Portugal a dû le faire et Chypre a dû le faire. Simplement, ces trois pays-là se sont débarrassés des contrôleurs puisqu'ils ont pris des mesures qui leur permettent aujourd'hui d'être financés par les marchés financiers à nouveau. Et je crois que pour les Grecs, c'est ça l'horizon. C'est de se débarrasser de l'Europe FMI, ça sera bien mieux pour les Grecs. Et j'ajoute, ça sera bien mieux pour l'Europe. Parce qu'effectivement, l'Europe, du coup, endosse.
Sauf que c'est parce que ce n'est pas l'Europe, en particulier l'Allemagne, qui veut absolument que les FMI restent dans le sauvetage de la Grèce.
Alors attention, parce que là, on arrive au deuxième point que vous évoquez. J'en viens à votre question. Mais je voulais quand même rappeler ça. Hein. Mmh. Ça soulagera tout le monde quand l'Europe FMI aura disparu. Et j'ajoute, et c'est là où j'en viens à mon deuxième point, que l'Europe FMI, non seulement c'était pas prévu, mais c'était même exclu par les traités européens. Les traités européens, qu'ont signé les Allemands, mais aussi les Français, étaient extrêmement clairs au moment de Maastricht. Si un pays est dans la difficulté, nous ne l'aiderons pas. C'était écrit noir sur blanc, no bailout, nous ne l'aiderons pas. Il se débrouillera tout seul. Or, il a fallu aider la Grèce, mais parce que la Grèce, l'Irlande, le Portugal, Chypre, ça n'a pas posé de problème politique, par exemple, dans un pays comme la France. Je crois que les Français, dans leur grande majorité, sont assez à l'aise avec le fait qu'il fallait aider la Grèce, pour les Grecs, d'une part, mais aussi pour la zone euro, parce qu'il faut maintenir la zone euro dans son intégrité, qu'une sortie de la Grèce serait dommageable pour la Grèce, mais aussi pour la zone euro dans son ensemble. Mais on est bien obligé de constater que ça a posé des problèmes, y compris politiques, dans d'autres pays. Prenons l'Allemagne que vous citez. Alternative für Deutschland a émergé sur ce sujet, le rejet de la solidarité, notamment avec la Grèce. Ce qui lui a redonné de l'élan, un peu plus tard, c'est le rejet d'une autre forme de solidarité, c'est-à-dire avec les demandeurs d'asile. C'est un problème politique aujourd'hui en Allemagne. Alternative für Deutschland a émergé, a pris des positions, etc. Et donc, en effet, et Alain Sall a raison, dans le jeu de rôle, la mise en scène qui précède jadis les conseils européens, maintenant les réunions de l'Eurogroupe, eh bien chaque acteur est obligé, envoie des signaux, est obligé, je ne sais pas, mais en tout cas je constate, envoie des signaux à son opinion publique. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aussi aux Pays-Bas. M. Dijsselbloem a des élections le mois prochain, son parti n'est pas du tout sûr de les remporter. Et il envoie des signaux qui sont des signaux politiques en direction d'une frange de l'électorat qui ne voulait pas aider la Grèce. Et donc, quand on parle de déni de démocratie, il faut faire attention, parce que les démocraties, il y en a 28, au sein de la zone euro, il y en a 19, elles doivent toutes être prises en considération. Et j'ajoute que pour la Grèce, l'arbitrage démocratique a été rendu. C'est-à-dire qu'au moment où Tsipras a accepté, en juillet 2015, les conditions d'un troisième plan d'aide, qui conduisent évidemment à beaucoup d'austérité en Grèce, évidemment, notamment parce que ce pays, et là Tsipras n'y est évidemment pour rien, avait vécu au-dessus de ses moyens pendant une bonne décennie, eh bien il est revenu devant son peuple. Et le peuple grec a décidé d'accepter cette tragédie pour récuser le drame qui s'en serait suivi si jamais une sortie de la zone euro avait été validée par les Grecs. Parce que alors là, puisque c'est la question titre de votre émission, parce que alors là, on serait parti dans quelque chose, en tout cas, que le peuple grec a décidé de récuser, parce que le retour à la drachme aurait été bien pire. Alors on est effectivement dans cette situation de souveraineté limitée des Grecs, qui n'est pas normale, dont il faut sortir très vite. Je crois que malheureusement, on en sortira seulement si, premièrement, les Grecs prennent les mesures pour revenir sur les marchés financiers, et deuxièmement, je veux terminer là-dessus, si on allège en effet la dette grecque qui aujourd'hui est trop élevée et elle est insupportable. Ça se fera à un moment ou à un autre. C'est difficile de le faire pour l'instant.
Alain Sall, et puis ensuite Statiskou Velakis.
La question quand même qui se pose, c'est quelles mesures doit prendre le gouvernement grec ? Parce qu'au fond, dans le plan qui a été signé à l'été de 2015, une des mesures et des objectifs phares, c'est de demander à ce pays dont tout le monde sait qu'il est depuis très longtemps mal géré, et en tout cas tout le monde en a pris conscience en Europe aujourd'hui. Dans le même temps, on demandait au gouvernement de Tsipras de pouvoir dégager un excédent primaire avant le remboursement des dettes de 3,5%, ce que aucun pays en Europe
n'est capable de faire.
Capable de faire. Donc comment on peut construire quelque chose...
Précisons que c'est Berlin quand même oui, qui exige ce point-là. Ouais. Hein.
Comment peut-on... Et alors le FMI trouve aussi que c'est un objectif inatteignable. Tout le monde est globalement d'accord là-dessus, sauf Berlin et quelques alliés. Et on ne change pas. Donc toutes les mesures sont faites pour essayer d'arriver à cet objectif qui ne sera jamais atteint. Et on le sait et on continue à faire comme si...
Et à tel point d'ailleurs qu'on se demande même si Wolfgang Schäuble, donc le ministre allemand des Finances, ne fait pas ça, c'est-à-dire garder cet objectif des 3,5% d'excédent budgétaire pour in fine, écarter la Grèce de l'Union européenne. Cette hypothèse, elle est sur la table. Tant il ne veut pas changer de cap. Statis Kouvelakis.
Moi, je ne peux que m'inscrire en faux devant le récit qui a été proposé ici par Monsieur Bertoncini. Alors, premièrement, la Grèce a été bien entendu mal gérée. Les élites politiques ont une part de responsabilité dans ce qui se fait. Mais enfin, on ne peut pas écarter qu'ici, la gestion de la crise a considérablement aggravé la crise et que le FMI lui-même, de toute façon, admet que les programmes dits d'aide qui ont été appliqués avec leurs conditionnalités, leurs conditions, ont abouti à un véritable désastre.
Vous faites référence à un récent rapport du FMI.
Oui, bien sûr. À chaque fois, les effets récessifs des mesures qui ont été prises ont été grandement sous-estimés. Deuxièmement, la soi-disant aide de la Grèce revient quand même à avoir aidé quand la situation était vraiment explosive avec la dette grecque, ceux qui, à ce moment-là, étaient les détenteurs des titres de la dette grecque, c'est-à-dire avant tout les banques étrangères et secondairement les banques grecques. Donc ce qui s'est passé avec ces soi-disant plans d'aide, ce n'est absolument pas la population qui en a profité. Ce sont les banques qui ont réussi à se débarrasser des titres qui étaient pourris à relativement peu de frais, qui sont maintenant détenus essentiellement par les institutions européennes. Et la dette grecque elle-même, le problème des dettes souveraines en Europe, est un problème qui ne concerne pas que la Grèce. Enfin, on voit bien qu'il y a un modèle économique qui a été mis en place, qui fait qu'il y a des pays qui sont déficitaires et il y a des pays qui sont excédentaires de manière très forte. Donc, au lieu de produire de la convergence et vers le haut, comme c'était la promesse finalement de l'intégration européenne, on a produit au contraire des inégalités qui se creusent et de la polarisation. Et la Grèce n'est qu'un cas plus grave, mais de tendances qui sont beaucoup plus générales et qui touchent d'autres pays. Bon, donc pour répondre à la question que vous avez posée, je crois que quand Syriza est arrivé au pouvoir en janvier 2015, il est arrivé sur la base des engagements qui constituaient la seule possibilité pour sortir de cette crise et pour sauver justement la population grecque des souffrances qui lui sont infligées. Le problème, c'est que Alexis Tsipras a été prisonnier d'une illusion terrible, c'était de penser qu'il pouvait mettre en œuvre un programme de rupture avec ses politiques d'austérité et de néolibéralisme strict et de mise sous tutelle dans le cadre de l'eurozone. On a vu que ce n'était pas possible. On a vu que sans plan B, il n'y a pas de plan A en réalité. Donc, ce qu'il a fait, comme il s'est refusé obstinément à envisager ce plan B, qui impliquait effectivement...
Le plan B, c'est la sortie de la zone euro.
Oui, absolument. Les créanciers le tenaient. Ils savaient très bien, quelques jours après la prise du pouvoir, de toute façon, par Alexis Tsipras, la Banque Centrale Européenne a décidé de couper le principal canal de liquidité des banques grecques. À partir de ce moment-là, il était clair que le gouvernement grec était pieds et poings liés. C'était confirmé par l'accord du 20 février 2015 que Varoufakis a signé. Donc Tsipras s'est refusé à envisager le plan B, il a été conduit au désastre. Et on mentionne le fait de la démocratie. Eh bien, vous savez, il y a des cas où justement les élections ne permettent pas de trancher démocratiquement parce qu'elles ne proposent pas de solution. La situation de la Grèce en 2015, après la capitulation, était une situation de très très grande confusion. La population ne savait plus littéralement à quel sein se vouer. Et elle a choisi de donner une nouvelle chance à Alexis Tsipras, pensant qu'elle choisissait pour le moindre mal. Mais en réalité, un pays ne peut pas vivre comme ça. Un pays ne peut pas vivre dans ce déni permanent de souveraineté. Un pays ne peut pas vivre dans une paupérisation continue de sa population. Les chiffres sont absolument effrayants. L'échec est là. Donc, il y a le cocktail est explosif et ne peut aboutir qu'à quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus inquiétant. Parce que vu que la solution de gauche progressiste a apparemment échoué, par peur de rupture avec l'Union européenne telle qu'elle existe, eh bien c'est peut-être des choses extrêmement désagréables et obscures qui sont en train de monter.
On va peut-être faire répondre Yves Bertoncini, ensuite j'ai une question à vous proposer. Yves Bertoncini.
Il faut quand même redire que la crise des dettes souveraines, qui est effectivement plus large, qui a été plus large, ne serait-ce que parce que, pas seulement la Grèce, d'autres pays ont dû aussi faire appel à l'Europe FMI, c'est d'abord une crise de souveraineté. Les pays sont endettés, ils ne peuvent plus se financer sur les marchés. Ça, c'est l'état normal des choses. La France, aujourd'hui, se finance sur les marchés. Tous les pays de l'Union européenne se financent sur les marchés, sauf un, la Grèce. Alors, pour cette raison, ils doivent faire appel au FMI et en l'espèce à l'Europe FMI, et ils sont effectivement dans une situation de souveraineté limitée dont j'espère qu'ils vont sortir au plus vite. Et encore une fois, les Portugais en sont sortis, les Irlandais en sont sortis, les Chypriotes en sont sortis. Il faut qu'en Grèce soient prises les bonnes décisions pour en sortir. Deuxième point, sur le fait que cette exigence d'excédent primaire de 3,5 soit excessive, bien naturellement qu'elle est excessive. Simplement, la différence entre le FMI et M. Schäuble, c'est que le FMI n'a pas d'électeurs. M. Schäuble en a. Et de surcroît, il a des élections qui arrivent là. Donc effectivement, M. Schäuble est arc-bouté sur ces 3,5% d'excédent primaire qui sont techniquement sans doute assez déraisonnables, mais il le fait pour des raisons politiques et j'ajoute démocratiques. Les Allemands ne souhaitaient pas prêter aux Grecs.
C'est plus que déraisonnable. Le récent rapport du FMI dit carrément que c'est absolument insoutenable, alors, contre-productif.
Allons jusqu'au bout du raisonnement. Quant aux responsabilités de la crise grecque, et venons-en à ce que vous avez dit, monsieur, je suis d'accord avec vous sur les responsabilités partagées. Les responsabilités premières, elles sont de manière écrasante en Grèce, vis-à-vis des anciennes élites. Voilà. Les Grecs ont souhaité donner une seconde chance à Alexis Tsipras quand il, vous dites, il ne savait plus à quel sein se vouer. Si, ils se sont voués, en tout cas aux élections législatives de septembre 2015, à Alexis Tsipras. Maintenant, il y a des responsabilités partagées par les marchés financiers, les banques d'une part, et par, effectivement, les créanciers publics de l'autre. Comment les banques, qui ont été effectivement bénéficiaires des plans d'aide, ont-elles contribué à payer pour leur part de responsabilité? Il y a quand même eu ce qu'on appelle en technique un haircut. Les créanciers privés ont renoncé à 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, je le signale. Alors maintenant, les créanciers publics vont devoir faire un geste. Oui, effectivement, ils vont faire un geste sur la dette publique qui est aujourd'hui insoutenable techniquement. C'est difficile pour eux de le faire. Ils vont le faire. On voit bien comment ils vont le faire. Ils vont soit au début allonger ce qu'on appelle les maturités des prêts, c'est-à-dire que, il faut quand même le dire, les Grecs, à l'heure actuelle, ne remboursent absolument rien aux Français, à l'Allemagne, etc. Les remboursements n'ont toujours pas lieu. Ils doivent rembourser à la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, il y a un prêt important à rembourser au mois de juillet. Ouais. Ça va être là, le prochain psychodrame.
7 milliards.
Eh bien, on décidera qu'ils ne nous rembourseront non seulement pas tout de suite, mais encore plus tard. Les taux d'intérêt vont être baissés. Et puis peut-être à un moment, il y aura ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire qu'on renoncera à une petite partie de cette dette grecque pour la rendre absolument supportable. Simplement, une fois de plus, je voulais terminer là-dessus, regardons le contexte politique et démocratique. La voix du peuple grec doit être entendue, elle l'a été. Les Grecs ont voté en janvier 2015, ils ont eu un référendum en juillet 2015, ils ont revoté encore une fois.
62% contre le plan Juncker, qui était beaucoup plus soft que ce qui a été imposé par la suite.
Et donc, la question qui a été posée à ce moment-là aux Grecs, aux législatives de septembre 2015, c'est voulez-vous malgré tout de cette potion amère? C'est-à-dire, voulez-vous, oui ou non, reconduire M. Tsipras au pouvoir malgré le fait qu'il ait accepté cette potion amère? La réponse a été oui. Et donc, moi, je m'en tiens là comme un observateur extérieur. Et si, j'ajoute une dernière chose, les sondages ne sont pas prédictifs. On voit bien dans les sondages que M. Tsipras y a perdu des plumes,
beaucoup,
puisqu'il n'est plus qu'à 20% d'intention de vote. Même. Simplement, ce qui est frappant, c'est que le parti qui caracole en tête, c'est Nouvelle Démocratie, qui est à 35% des intentions de vote, alors que tous les autres partis sont en dessous de 10.
Alain Salle, et puis Statis Koubelakis.
C'est quand même justement au moment de ce vote, le parti qui a fait scission de Syriza, Unité Populaire, s'est présenté sur la base justement du non au référendum et n'a pas été capable d'avoir des députés au Parlement. Ça a été un échec quand même assez cuisant et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'arrive pas non plus à profiter pour créer une sorte d'alternative de gauche.
Statis Kouvelakis, je vais vous laisser réagir librement. Je me permets juste de glisser comme ça une question parce qu'effectivement, Yves Bertoncini a raison de rappeler que depuis son élection, Alexis Tsipras a beaucoup perdu de sa popularité. Il est à moins de 20% effectivement dans les intentions de vote. Or là, il vient d'accepter des termes d'un accord qu'il jugeait il y a encore quelques jours comme absolument inacceptable. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il va expliquer là à son Parlement que les mesures qu'il qualifiait d'atteinte à la démocratie il y a encore quelques jours sont désormais acceptables? Est-ce qu'il a encore la légitimité pour imposer ces nouveaux efforts aux Grecs?
Oui, écoutez, Premièrement, Monsieur Bertoncini n'arrête pas de vouloir restreindre le problème à la Grèce. Ce n'est pas vrai.
Bah, c'est l'émission du jour. Hein.
Les plans d'aide ont été. Oui, oui, non, mais je veux dire le problème de l'échec des plans d'aide. Les plans d'aide ont échoué partout. Le Portugal est à l'heure actuelle entre -5 et -7% de son PIB de ce qu'il était avant avant la crise.
Donc mais il a les une effets, forte croissance aujourd'hui,
les effets de la les effets de la la récession sont extrêmement, les effets récessifs des mesures prises sont extrêmement importants et extrêmement profonds. Mais l'ampleur de l'ajustement fiscal budgétaire qui a été demandé à la Grèce est sans commune mesure avec celui des autres pays. C'est ça qui a provoqué véritablement ce désastre récessif. Hein. Je tiens à signaler que la Grèce était à -14% de déficit public en 2010 et elle est aujourd'hui légèrement en situation de léger excédent budgétaire.
C'est des ajustements. Plus en récession, qu'on est repassé dans des croissances positives.
Elle est en stagnation. Il y a une croissance. Il y a une croissance à peu près nulle après une chute de 27% du PIB. Je voudrais insister quand même sur les chiffres. 27% du PIB, c'est un niveau de récession qu'on n'a pas vu depuis les années 30. Et encore dans les années 30, seuls deux pays l'ont connu. Le taux de chômage officiel est de 23%.
Il était de 28%. Il a baissé.
750 000 habitants, dont 400 à 500 000 Grecs, ont quitté le pays ces dernières années pour la plupart des jeunes. Le pays est en train de se vider de sa substance. J'enseigne à l'université de Londres. Londres est en train de devenir, entre autres, une ville grecque importante parce que ce sont des dizaines de milliers de jeunes diplômés, la sève du pays, littéralement, la génération la plus instruite qui n'a aucune perspective. Bon, l'échec de ces politiques est tout à fait patent. C'est pour ça que dans le cas de la Grèce, justement, on ne peut pas s'en sortir. Monsieur Bertoncini répète, moi je veux que vous en sortiez. Mais en même temps, il soutient des politiques qui rendent cela tout à fait impossible et qui ne font qu'enfoncer le pays. Les mesures qui ont été, parce qu'il faut en venir quand même à ce qui a été décidé au cours de cet Eurogroupe, visent à maintenir ces excédents budgétaires qui sont non seulement complètement irréalistes, mais qui visent à achever une économie qui a déjà perdu plus d'un quart de sa richesse pendant ces dernières années. C'est complètement absurde. La Grèce a besoin précisément de l'inverse. Elle a besoin d'une politique contracyclique, d'une politique qui favorise la croissance.
Et c'est pas ailleurs ce que dit le rapport du FMI.
Le rééchelonnement de la dette ne permet de résoudre rien. Il remet un peu plus tard une charge qui demeure pour l'essentiel identique. Et le FMI a des règles, monsieur Bertoncini. Ce n'est pas simplement qu'il n'a pas des lecteurs, il a des règles, il a des statuts qui lui interdisent de considérer justement la dette grecque comme une dette gérable. Et monsieur Schäuble n'a pas simplement un électorat.
Qui lui interdisent de participer au sauvetage d'un pays dont la dette est jugée insoutenable.
Monsieur Schäuble, comme les créanciers de la Grèce, vont avoir à supporter un coût s'ils allègent effectivement la dette grecque. Donc, et ils se refusent à le faire parce qu'ils savent très bien qu'il y a une longue liste après la Grèce. Vous considérez comme normal que des pays soient obligés d'aller sur les marchés internationaux pour financer leurs dettes? Moi, je ne considère pas ça comme normal. Je considère que c'est un très grand échec, justement, de la façon dont l'intégration européenne a été menée. C'est pour cela que ces traités aboutissent à de la récession, aboutissent à des taux de croissance faibles et stagnants pour la plupart des pays de la zone euro, aboutissent à des inégalités, à une polarisation croissante. Et c'est pour cela que les peuples et les populations se révoltent précisément contre ce système.
S'il vous plaît, on va essayer peut-être de faire répondre Yves Bertoncini. Oh. On arrive presque au terme de cette émission, donc je veux laisser le temps à Yves Bertoncini de répondre.
Non, je comprends tout à fait votre vigueur. Je ne suis pas grec moi-même. J'observe simplement la situation grecque et européenne au sens large. Je retrouve dans vos propos une visée européenne. On pourra parler à une autre émission si vous nous invitez, Florent Delorme, de l'Europe en général. On voit bien cette tendance qu'incarnait très bien d'ailleurs Monsieur Varoufakis de vouloir faire la révolution en Europe. Moi, je pense que Monsieur Tsipras s'attache maintenant à faire la révolution en Grèce, et c'est déjà pas mal. Je constate qu'il a été soutenu aux législatives de septembre 2015 par son peuple. Simplement, ce que je constate en observateur européen, c'est qu'il y a d'autres peuples. Il y en a en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas. Un premier ministre slovaque a sauté pour faire accepter à son pays d'aider la Grèce, parce que la Grèce était un pays plus riche que la Slovaquie. Et donc, je ne valide pas du tout le fait qu'il faut 3,5% d'excédent primaire, je crois avoir dit le contraire. Simplement, en observateur, je constate qu'il faut faire coexister au sein de la zone euro 19 démocraties nationales, et que l'équation de la dernière période, qui est d'ailleurs inquiétante, ce n'est pas tant Bruxelles contre les peuples, hein, c'est ce qu'on nous resserre régulièrement. Non, c'est que les peuples de l'Union européenne sont divisés les uns des autres. Et d'aller, pour aller vite, qu'une majorité du peuple allemand n'avait pas envie de faire ce qu'une majorité du peuple grec souhaite. Et donc, c'est difficile de construire la démocratie européenne à ce titre. Mais il faut avoir intellectuellement le courage de constater que tout ne se réduit pas à la fable selon laquelle Bruxelles, comme le FMI, affame tous les peuples de l'Europe
Monsieur
les uns
Bertoncini,
après les autres.
Je vous offre 30 secondes, Statis Kouvelakis, parce française... qu'après, je vais me faire taper sur les doigts.
Allez-y. J'aimerais vous entendre si le peuple français réalisait que les gouvernements qu'ils élisaient sont des godillots de créanciers. La dette française s'élève à 95% de son PIB. Elle est au niveau de la dette grecque en 2007. Si les créanciers de la France dictaient jusqu'au moindre détail de la politique que les gouvernements de ce pays doivent suivre, pour les années et même les décennies à venir, j'aimerais vous entendre justement là-dessus et j'aimerais vous entendre expliquer au peuple français qu'il y a 26 ou 27 autres démocraties auxquelles il doit
une autre fois peut-être.
Merci beaucoup messieurs, une autre fois, voilà, je crois qu'il va falloir reprendre rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat vif mais cordial. Je vous remercie infiniment. Statis Kouvelakis, enseignant en philosophie politique au King's College de Londres, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Notre Europe, mais aussi Alain Salles, notre partenaire du Monde chaque vendredi. Merci beaucoup, Alain Salles. Πρόσμενα καιρό. Μα πως το πάμε, πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω. Ce qu'on entend là, c'est Imam Beldi, qui est un collectif de musique électronique grecque, une petite perle que nous a trouvé Philippe Baudouin et que je remercie. Il est 11h presque 53 minutes, l'heure de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, depuis le début de la semaine, on regarde ce que les autres pensent de notre campagne électorale après les médias, les think tanks. Que peut-on y lire sur notre campagne électorale et plus largement sur notre vie politique, Brice ?
Eh bien, le titre d'un papier publié par l'université de Yale a retenu mon attention. Le facteur Trump dans les élections françaises. Consacré à un parallèle entre Marine Le Pen et Donald Trump, il est signé François Godemont. Marine Le Pen, écrit-il, joue sur les mêmes touches que Trump, celle de la désaffection envers les partis établis et celle de la frustration ressentie sur les plans social et culturel par une forte proportion de l'électorat. La France partage avec les États-Unis d'être une vieille nation d'immigrés. Et le républicanisme a longtemps constitué un puissant facteur d'intégration. La République, c'était, écrit-il, l'équivalent de notre « In God we trust ». Mais la machine s'est déréglée. Le républicanisme a perdu sa capacité d'intégration, d'agrégation. Ce sont les enfants nés de parents immigrés qui souvent retournent aux communautés imaginées des pays d'origine. Le multiculturalisme a aggravé les choses. On a assisté à l'échec graduel de l'intégration et à la formation de communautés closes, ainsi qu'à une montée de l'islam militant. Cela a provoqué un fort ressentiment envers les élites. Ce qui est frappant, écrit-il, c'est le sentiment de dépossession ressenti par une partie de la population face à une double insécurité, à la fois sociale et culturelle. La France et les États-Unis ont également en commun un sentiment de déclin. Mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, les salaires des blue collars ont effectivement baissé, alors qu'en France, les salaires ont eu plutôt tendance à augmenter. Mais c'est le chômage qui, chez nous, se maintient à des niveaux inacceptables. C'est pourquoi on observe aussi une différence au niveau de la traduction politique du malaise. La droite radicale, aux États-Unis, rejette l'État fédéral. En France, le Front National réclame son retour. Autre différence, ce sont les plus âgés qui ont voté pour Trump aux États-Unis. En France, ce sont au contraire les plus jeunes qui votent pour Marine Le Pen. Le plus pour Marine Le Pen. Trump a peuplé son gouvernement de milliardaires et il est ouvertement favorable au big business. Le programme de Marine Le Pen ressemble, je cite toujours cette note, à une résurrection des vieux programmes du Parti communiste des années 70. Trump adore provoquer, Marine Le Pen ne cesse de sourire à la caméra pour désarmer les critiques. Autant de ressemblances donc que de différences.
Et alors dresse-t-on des parallèles avec la situation qui prévaut dans d'autres pays d'Europe? Ces pays où on l'a vu cette semaine dans Culture Monde auront lieu aussi des élections, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Oui Florian, et c'est pour relever d'une manière générale la poussée des partis populistes qui concernent à peu près toute l'Europe, comme le constate le think tank Atlantic Council. Ce dernier s'interroge sur l'impact qu'auront les élections prévues cette année dans trois pays de l'Union européenne et peut-être un quatrième. Aux Pays-Bas, le parti de la liberté de Wilders qui prône l'interdiction de l'immigration musulmane va probablement devenir le premier du pays en nombre de sièges au Parlement en tous les cas, mais il est très loin de la majorité et ne dispose pas d'alliés. Il ne pourra donc pas former de gouvernement de coalition. En France, Marine Le Pen est créditée de 22 à 26% des voix, mais elle semble devoir être battue au second tour par le candidat arrivé en seconde position, quel qu'il soit. Atlantic Council estime que si François Fillon était élu, cela constituerait un défi pour l'Union européenne, car il appartient à la tendance eurosceptique de son camp. En Allemagne, la CDU-CSU est créditée de 32 à 38% des suffrages contre 21 à 22 pour le SPD. Le parti populiste anti-européen AfD n'en obtiendrait que 12 à 15, ce qui ne risque pas de faire basculer le pays dans le camp des eurosceptiques. Mais c'est d'Italie que pourraient venir de mauvaises nouvelles pour l'Union européenne. En effet, l'échec politique de Matteo Renzi a créé dans le pays une situation nouvelle et des élections anticipées cette année sont assez probables. Or, les partis populistes du mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, qui sont tous deux eurosceptiques, pourraient bien former une majorité ensemble. Les États-Unis devraient s'en inquiéter, estime l'Atlantic Council. Ce think tank n'a pas encore intégré le fait que le nouveau président des États-Unis désire ardemment la destruction de l'Union européenne. La Brookings, sans doute le plus important think tank du monde, ramifié dans de nombreuses régions de la planète, estime de son côté que nos primaires, à droite comme à gauche, ont abouti à la sélection de candidats tellement inattendus que l'issue du premier tour est lui aussi très inattendue. Quatre candidats ont leur chance de passer l'obstacle. Le plus inattendu, pour reprendre ce mot, est Emmanuel Macron. Il attirera, je cite, « un électorat jeune, urbain, de centre-gauche » et possiblement de centre-droit. La vision de Macron est qualifiée de « favorable au business » et pourtant social-démocrate, en opposition avec celle de Hamon, décrit, je cite, comme « un Bernie Sanders à la française ». Hamon est favorable à l'immigration, Macron à une Europe qui assume le lâchage américain. Beaucoup de visages relativement nouveaux relèvent cette note de la Brookings et une inquiétude, toujours la même, le risque de voir les voix des modérés se couvrir les unes les autres au bénéfice de Marine Le Pen. Son nationalisme anti-européen pourrait avoir, je cite, des conséquences désastreuses pour les relations transatlantiques. Bizarrement, l'auteur de la note évite de mentionner l'effet produit par l'élection de Donald Trump sur ces fameuses relations. Les think tanks américains auraient-ils une présidence de retard?
Merci beaucoup Brice Couturier. On peut retrouver bien sûr votre chronique et celle du reste de la semaine sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On peut également réécouter Culture Monde sur ce même site. Un grand merci Brice, on se retrouvera lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Mais dans quelques instants sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert.